Je sais pas qui veut commencer. Je sais pas qui veut commencer. C'est tout. Vous parlez du thème de la mémoire. Moi, j'ai vu le traité donc, sous moi, de Memorex, sous la forme d'un thriller, ou plutôt d'un récit à suspense. Puisque, effectivement, bon, le thème de la mémoire est très présent dans ce type de littérature. Et le défi consistait à justement pouvoir suffisamment, je veux dire, embrouiller les pistes, emmêler les pistes, pour faire douter le lecteur, pour se dire. Est-ce que ma théorie du début est effectivement celle qui va se développer par la suite? C'est un peu, je pense, le défi que tous les amateurs écrivains de thrillers rencontrent dans ce type de littérature. Donc, pour parler un petit peu plus donc, de la mémoire, c'est l'histoire de Réa, une jeune fille qui a vu son univers complètement chamboulé il y a un an, puisque sa mère. Ainsi que d'autres personnes sont mortes dans un attentat qui visait donc la fondation culturelle de celle-ci. Depuis, malheureusement, ses proches ont été, se sont un petit peu retranchés chacun dans son univers. Elle est laissée complètement seule et désemparée face à cette épreuve. Et un an après, par la suite, elle essaie tant bien que mal de se remettre, tout au moins de continuer à vivre. Et elle s'apprête donc à commémorer donc, le premier anniversaire de la mort de sa mère, à revenir sur l'île familiale qui est une réelle épreuve en soi. Et à ce moment-là, elle reçoit un anonyme. Tout va tourner autour de la mémoire. Ce bien anonyme ne contient qu'une seule question, c'est-à-dire te souviens-tu? Et en toile de fond, il y a la fondation de la mère donc, qui a été dévastée par l'attentat. À partir de là, elle va commencer à douter de tout. Et surtout d'elle-même et de ses souvenirs. C'est surtout, c'est vraiment la clé qui va se développer donc, dans le roman de Lorenz.
Alors, dans mon cas, peut-être avant de parler de mémoire, juste situer un peu le contexte. Donc, vous avez vu, il y a des jolies petites gélules sur la couverture. C'est qui manque en toile de fond,
cette histoire de contrôle dans les érections. Enfin oui, d'accord, si, d'accord, si, si, je vois. D'accord, si, si, je vois. Thank you. j'avais donc visionné une conférence, je ne sais plus malheureusement, j'ai oublié le nom du conférencier. Mais ce propos m'avait marqué parce qu'il parle en fait de l'ère du brain hacking, donc en français on pourrait dire le piratage du cerveau, en disant en fait que c'était un petit peu le genre de Saint Graal, d'objectif ultime de la science, qui en fait. Au lieu de s'en prendre un petit peu au réseau informatique, donc les accords qu'on connaît souvent, ce serait en fait d'aller directement à la source de nos connaissances et donc de pirater directement le cerveau humain. Et je m'étais intéressée en fait à ce thème un petit peu, ça va rejoindre les propos donc, de Mélie, un petit peu dans l'optique de soigner les victimes, le traumatisme psychologique. J'explore les conséquences d'un attentat, d'une attaque, d'une agression brutale. Mais les victimes de traumatismes psychologiques, malheureusement, on en croise au quotidien. Et c'est le fait aussi de pouvoir dire on va pas passer au-dessus, pardonnerai l'expression, mais la vie continue et on va devoir avancer, on va devoir progresser, même si. Effectivement, il y a eu ce moment dans la vie qui nous impacte plus particulièrement. Et je suis intéressée à ça dans l'optique de Mémorex pour dire, voilà, comment passer un petit peu au-dessus de tout ça, comment est-ce qu'on peut aider les victimes, on peut tous aider d'ailleurs, à avancer. J'ai formulé ma propre réponse dans Mémorex, même si ce n'est pas vraiment une réponse. Mais c'était un petit peu dans cette optique-là. Et donc, oui, ça rejoint un petit peu le contrôle. Parce qu'effectivement, quand on parle de piratage et tout, on est un petit peu à la frontière du bien et du mal. Et moi, comme j'adore explorer les zones de gris dans mon personnage et dans leur motivation, ça m'a vraiment beaucoup intéressé.
Effectivement les conséquences sociales, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut provoquer Sur Internet ou dans la
sur la complicité qu'on a aussi permanente hein, avec tout ce qui nous arrive, hein, pas seulement avec la science, hein, mais avec tout ce qui nous arrive, on est toujours complice de tout ça. Dans Résurrection, c'est vraiment pas seulement, il s'agit pas seulement du médecin ou de la science, il s'agit d'autorité en règle générale, mais d'un point de vue plus précis, parce que c'est une métaphore sur l'adolescence et sur l'accession à l'âge adulte avec tout ce que ça comporte et avec ce chemin qui ne se finit jamais en fait. Hein, je ne pense pas, en tout cas, je ne pense pas terminer. Donc, voilà. Et avec cette espèce de confiance effectivement aveugle qu'un enfant a en son parent, celui qui lui donne tout, celui qui lui apprend à marcher, celui qui donne à manger, celui qui rassure, celui qui est toujours là. Et puis la conscience douloureuse au moment où il ouvre les yeux, pour moi c'est le début de l'adolescence où on se rend compte que nos parents, mais où l'autorité en règle générale n'a pas toujours raison. C'est tellement plus sympa de penser qu'ils avaient toujours raison, c'est tellement plus rassurant de faire exactement tout ce qu'on nous disait, quoi. Ou à peu près, hein, je veux dire. Et puis savoir que même quand on ne faisait pas ce qu'on nous demandait de faire, il y avait un filet. À un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas de filet parce que bah, les gens qui nous entourent, l'autorité qui nous entoure de la plus proche à la plus éloignée, n'est pas omnisciente, n'a pas toujours raison, très loin de là. Et qu'à ce moment-là, on se retrouve tout seul, avec nos responsabilités, nos complicités, le fait d'accepter ou de ne pas accepter, quoi accepter, pourquoi, comment, enfin, etc. Et on est obligé de définir sans arrêt, tout le temps, effectivement, cette notion du bien, de la kinette que personnelle dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'effectivement, cette remise en question de l'autorité, alors moi, je la trouve indispensable, hein, et indispensable en permanence, justement. Je pense qu'il n'y aurait pas, si on se posait plus souvent, peut-être plus de questions, peut-être qu'on serait moins complice, peut-être qu'on, si on n'était pas autant à attendre des réponses toutes faites, parce que, enfin, on les attend tous, hein, parce qu'elles sont rassurantes, si on était peut-être un peu plus critique, etc., plus souvent. Mais c'est pas facile, hein, je ne suis pas en train de donner des leçons, parce que c'est quelque chose de pratiquement impossible à faire, à mon avis, en tout cas en permanence. Peut-être qu'effectivement, on ne tomberait pas dans certains excès.
Exact. Mais je l'ai mis aussi en tête dans cette sensibilité-là de l'imaginaire et cette liberté d'imaginer, cette liberté de création, qui est d'ailleurs à la base des grandes découvertes scientifiques et des grandes œuvres artistiques aussi. Donc, c'est quand même un moteur principal. Si au nom du progrès, on coupe cet élan-là, eh bien, on tue la poule aux œufs d'or. Pour parler de manière un peu imagée. Et je crois que la racine de la révolte des héros dans beaucoup de romans, c'est cette impossibilité qu'on leur fait tout à coup de s'épancher, en particulier de s'épancher au niveau de leur imaginaire.
Juste pour aller dans ton sens, je ne me rappelle plus exactement la citation d'Albert Einstein, mais il disait que la science peut amener d'un point A à un point B, l'imagination peut emmener partout, quelque chose comme ça. Et il était lui-même, c'était lui-même quelqu'un de très rêveur, et il dit lui-même qu'il n'aurait pas trouvé tout ce qu'il a trouvé s'il n'était pas sorti des sentiers battus, etc. Donc, j'aime bien cette idée que la science n'est pas du tout à opposer à l'imaginaire et à l'imagination. Voilà, au contraire. Mais je vais être en fait très original, puisque je vais dire qu'effectivement, dans ma mémoire, il y a effectivement un grand clin d'œil à l'œuvre de Marie-Chanel et Frankenstein. Après, non, je pense que c'est tout à fait logique, parce que c'est quand même. Enfin, quand je l'ai lu, c'était quelque chose qui m'a énormément marqué. Bien sûr, c'est notre maîtresse de la science-fiction, mais il y avait aussi une énorme dimension psychologique. On a parlé de révolte, on a parlé aussi de la prise de conscience de l'enfant qui se dit ben non, mes parents n'ont pas toujours raison. En fait, à Memorex, il y a effectivement une grosse dimension psychologique, puisqu'en fait, le fondateur de Memorex, qui est un petit peu aussi, je peux dire, une sorte de médicament miracle, mais ça s'en rapproche, n'est autre que le père de l'héroïne. Donc, forcément, il y a toute cette dimension de filiation, de se dire je te fais confiance parce que, à double titre. Et là aussi, il va y avoir des prises de conscience qui vont s'avérer douloureuses. Et je pense que c'est tout à fait logique aussi que quand on parle d'expérimentation scientifique, on met aussi tout de suite le balancier, je vais dire, le contrepoids de dire bon, attention, ok, on nous propose ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires, comme d'habitude? Et surtout, est-ce que ça va être bon pour moi? Est-ce que vraiment je vais pouvoir le suivre ou, au contraire, est-ce que je dois faire attention? Bien entendu, à ce moment-là, on n'est qu'à un pas de la révolte et de la prise de conscience de soi-même.
Très bon, vous l'aviez encore interdit. Mais alors, il me semble que dans, sur ce point-là, pour moi, il me semble que justement, dans ce qui n'oublie pas, vos personnages ne sont pas l'opposé. Ils sont d'abord des gens qui ne sont pas au courant de quoi que ce soit, qui subissent, et d'ailleurs, le reste de la société, les événements. C'est qu'on peut pas en dire trop sans que ça spoil tout le roman, mais eux aussi sont soumis à une autorité supérieure. C'est compliqué de développer.
C'est
un spoil. Ou sinon, on revient un peu aussi à la question de départ par rapport à laquelle on va diverger. Parce que ce qui est très marquant dans votre roman, quand je vais vous poser tout à l'heure la question sur la confiance dans les médecins, c'est que ce que vous mettez en scène,
ce que j'ai essayé de montrer effectivement dans le roman, c'est que
inscrit en tant que professionnel, puisque dans l'année civile, je suis pharmacien hospitalier, entre autres chargé d'une commission des médicaments qui fait des choix de substances, de médicaments à l'échelon de l'hôpital, pour que les médecins aient dans leur arsenal thérapeutique les médicaments les plus sûrs, les plus économiques aussi, avec également les plus efficaces. Donc on essaye de faire des choix qualitatifs, et cela indépendant de l'industrie pharmaceutique. C'est un peu un combat tous les jours que de résister aux arguments de l'industrie pharmaceutique qui essaie toujours de nous prouver par plus B que leurs produits sont bien meilleurs que la concurrence. Il faut donc prendre ce recul de l'objectivité scientifique, si pour autant qu'elle existe, pour prendre ce genre de décision. Alors, en tant que romancier, j'ai un peu exagéré forcément le côté combinateur. Les manipulateurs de l'industrie pharmaceutique, ils ont fait une sorte de Léviathan pour qui tous les coups sont permis, etc. J'ai exagéré, mais c'est peut-être quand même au niveau du roman la partie un peu réaliste, parce que il y a eu, dans les pratiques que je cite de la part de l'industrie pharmaceutique, il y a eu quand même la plupart de ces pratiques malhonnêtes ou ces ruses ou ces bandits. Elles n'ont pas été de la part toujours des mêmes acteurs, chacun ayant sa part de responsabilité dans ce genre de pratique et aussi sa part d'honnêteté, heureusement. Donc, finalement, il faut des instances neutres pour décider un peu de l'avance des médicaments. Il faut résister aussi beaucoup de la nouveauté. Il y a comme ça un grand problème qu'il faut maintenant pratiquer vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique qui, à part ça, jouent quand même en jeu assez régulièrement. Donc ce ne sont pas que des affreux manipulateurs. Mais à l'échelon du roman, c'est forcément pour, ne serait-ce que pour les raisons d'intrigue, de suspense, qu'il faut un peu rendre les choses plus noires, plus blanches et exagérées d'un côté ou l'autre. Mais on verra aussi que les acteurs qui représentent cette industrie pharmaceutique manipulatrice sont aussi capables de retournement et de réflexion. Et que les plus méchants ne sont pas ceux que l'on croyait finalement. La part des gens qui utilisent leurs produits.
Ça c'est notre métier, pas l'accentuer votre dépression, je veux dire, enfin un petit peu quand même. Mais enfin, je veux dire, on n'a jamais écrit de bonnes histoires et de bons sentiments. Comme je soulignais tout à l'heure, faut noircir un peu le tableau, faut pousser un peu les. Ben, c'est comme au théâtre, hein, les acteurs parlent plus fort, avec un ton un peu machin, et ils sont un petit peu plus maquillés, un peu maquillés pour que la réalité ressorte mieux. On est vraiment dans le. Du microscope pour mettre en évidence quelque chose. Donc, bien entendu, voilà, on joue là-dessus, c'est notre job. Je pense que ça a toujours été fait comme ça. Les histoires, ça n'est que ça. C'est on prend en exemple quelque chose de très très sombre pour pouvoir en tirer une espèce de message ou tirer une sonnette d'alarme, etc. Donc, ça c'est inhérent à la littérature et au fait de raconter des histoires tout court, je crois. Je suis pas sûre que ça livre.